les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment ne pas rester un éternel enfant aux yeux de ses parents? Alors bien sûr, il y a cette phrase toute faite, mes parents resteront toujours mes parents. Mais il y a aussi ces agacements au quotidien quand certains parents sont trop intrusifs ou tout simplement la difficulté de s'affranchir de la protection ou des convictions de ses parents. Sans le vouloir, je fais tout comme mon père et ça m'énerve, se disent certains. On va en discuter avec vous, Emmanuel Ballet de Coqueromont. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychopraticien et vous publiez « Vos parents ne sont plus vos parents » avec votre épouse Marie-France. C'est le résultat de vos années d'expérience à l'écoute de ceux qui ne parviennent pas à se libérer de la relation parentale. Heureusement pas tous, hein. Une bonne partie des adultes se libèrent relativement naturellement de la relation parentale, quoique quand même. À mes côtés, Penaï Traoré. Bonjour Penaï.
Bonjour Emmanuel.
Journaliste à RFI.
Bonjour Penaï.
Penaï, vous avez grandi en Afrique, un continent où le respect envers les anciens est particulièrement important. Mais vous, vous avez choisi peut-être de nous parler des parents avec une autre vision, celle de l'extrême éloignement géographique quand on a quitté le continent et qu'on a coupé le cordon, et c'est
avec
le cas de le dire,
parents.
Avec les parents, qu'est-ce qui se passe? Alors en tout cas, entre devoir de considération et émancipation, comment réinventer cette relation et puis vivre pleinement sa vie d'adulte? Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. 33 7 64 45 51 41. C'est le WhatsApp à rentrer absolument dans vos contacts, surtout si vous voulez recevoir nos messages et les sujets des émissions à venir. En fin d'émission, la chronique d'Ibrahima Girou, le psychologue qui donne des conseils aux parents pour leurs enfants. Alors cette fois-ci, leurs enfants en âge scolaire. Comment apprendre de ses erreurs avec ses enfants? Voilà, on vous laisse nous téléphoner 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Les voisins, les voisines, vous vivez en tout cas des situations similaires, hein, mais vous réagissez de façon différente les uns et les autres. Delma, c'est à Port-au-Prince, en Haïti. J'ai 24 ans, j'habite avec mon père, mon frère et ma sœur. Je travaille depuis 4 ans et j'ai souvent le même problème avec mon père. Il veut toujours que je lui rende des comptes, surtout, et c'est pas possible. En plus, j'ai souvent l'impression qu'il ne supporte pas l'idée que je puisse quitter la maison un jour. C'est pas facile de lui faire comprendre qu'on grandit tous. Voilà, ça, on est assez nombreux tous dans ce cas-là. Bayaki, à Lomé, au Togo, 34 ans, et à 150 km de chez mes parents, ma mère me demande encore si j'ai mangé. Parfois, ça ne me dérange pas, mais parfois, ça me dérange aussi, et en même temps, je comprends. Mamadou, à Dakar, à 53 ans, je suis toujours un enfant de 10 ans devant ma mère. Elle s'occupe de moi, me donne le même repas que les enfants, elle me gave et me donne des gâteaux.
Il est pouponné, suis... hein, lui.
Oui, mais il dit « j'en suis très gênée ». Et oui, il est assez ambivalent quand même. Lilia, à Toronto, elle est au Canada. « Moi, je ne vois plus mon fils de 20 ans comme un enfant. C'est devenu un véritable adulte pour moi. Je le laisse gérer sa vie et ses études. Sur certains sujets, il en connaît beaucoup plus que moi. » Voilà. Et puis, on donne la parole aussi à un auditeur qui nous appelle au téléphone. Junior nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Junior.
Bonjour Emmanuel.
Junior, vous avez 22 ans, alors plus vraiment un enfant, mais certes vous êtes un adulte aux yeux de la loi, hein, vous avez le droit de vote et tout, mais vous êtes encore étudiant quand même, Junior.
Oui, je suis encore étudiant.
Ouais.
Encore étudiant.
Et alors, quelle relation vous avez avec vos parents? Je crois que c'est surtout avec votre mère, hein, que c'est difficile.
Oui, c'est très difficile avec la maman, parfois la maman me contrôle, beaucoup de questions, elle ne me veut pas, elle veut juste un temps.
Mais qu'est-ce qu'elle veut contrôler de votre vie exactement à 22 ans?
Premièrement, elle veut savoir la fille avec qui je sors.
Oui.
Elle me pose surtout beaucoup de questions. Et quand les problèmes arrivent comme ça, parfois je quitte, je fais peut-être 3 jours ailleurs avec mes amis.
Oui.
Parfois mes amis me conseillent. Ils me disent parfois de rester juste aux côtés d'eux.
Ah oui.
Et quand je rentre à la maison, je croise encore le même problème.
Oui. C'est-à-dire que c'est vos amis qui vous disent « Écoute, prends un peu large. » Ça va aller mieux, elle va mieux comprendre ta mère, c'est ça?
Bon, non. Dans les conseils de mes amis me conseillent toujours de rester juste aux côtés d'eux. Parce que la maman me contrôle beaucoup. Il y a toujours des difficultés à la maison, là. C'est ce qui fait à ce que mes amis me conseillent ce genre d'histoire.
Votre maman, elle a une expression qu'elle emploie souvent avec vous, non?
Oui, oui, elle a une expression. Elle dit en Tchiluba, parce que nous sommes les Balouba du Kassai, elle dit en Tchiluba, Makayaka, toi, pita, Shimokubulato. Ce qui veut dire, elle est plus vieille que moi. Donc, les épaules ne peuvent pas dépasser la gorge.
Ouais, les épaules
le droit d'aînesse.
C'est ça, les épaules ne peuvent pas dépasser le cou. Ah bah ça c'est sûr, hein. Vu comme ça, effectivement c'est plein de bon sens. Elle a du bon sens votre maman en même temps. Mais Emmanuel Ballet de Coq-Romont, qu'est-ce qu'on peut répondre à Junior plus sérieusement quand on a 22 ans? C'est vrai qu'on a besoin de prendre l'air.
Oui, tout à fait. Alors bonjour Junior. Bonjour. Il l'exprime très bien. Je crois qu'il a, il est dans cette phase de l'existence, en général entre 21 et 28 ans, où on a besoin de s'insérer, en fait, d'entrer dans le monde. Et pour entrer dans le monde, eh bien, on doit quitter sa famille. Alors quand je dis quitter sa famille, ça ne veut pas dire évidemment rejeter les liens, mais on doit commencer à s'émanciper de tous ces liens qui se font de manière automatique. Et Junior, vous voyez que votre mère, eh bien, elle continue son rôle de maman, comme vous dites, de manière automatique. Et c'est très traditionnel. On a, à travers le discours de votre mère, une vision traditionnelle qui est la vision d'une relation parent-enfant à l'âge adulte qui reste hiérarchique et dissymétrique. Alors, vous voyez, Junior, moi, ce que je vous proposerais, un acte tout simple à poser, c'est de cesser d'appeler votre maman par le terme de maman. Parce qu'une maman, c'est ce lien affectif dont un tout petit a besoin. Mais déjà, vous pourriez simplement dire votre mère, ce qui n'a l'air de rien, mais qui déjà structure psychiquement le rapport à l'autre. Je n'ai plus une maman parce que je n'ai plus 5 ans, 10 ans, voilà, j'ai une mère.
Vous voulez dire quand il en parle à d'autres personnes?
Quand il en parle à d'autres ou quand il s'exprime à sa mère. Je ne sais pas comment vous l'appelez, Junior.
Bon, je l'appelle toujours maman. C'est...
Et oui.
Donc, ici, en revue de...
En même temps, on ne voit pas comment on pourrait appeler encore sa mère.
Et en fait, c'est difficile, tout à fait. Nous n'avons pas de vocabulaire pour appeler nos parents, nos ex-parents, en grandissant.
C'est vrai, vous avez raison.
Que par maman, papa, mère. Voilà. Alors, certaines personnes l'appellent par leur prénom. Mais alors, si vous l'appelez par son prénom, votre mère va vous regarder de manière catastrophique.
On considère ça comme un manque de respect de l'appeler par le prénom.
Voilà, tout à fait. Mais je pense que vous pourriez commencer à l'appeler mère.
En tout cas, quand on est à l'extérieur, en tout cas, en parler autrement, en disant ma mère. C'est
déjà,
ça, c'est ce que vous
déjà,
conseillez.
Tout à fait.
Merci en tout cas, Junior, de nous avoir appelé. Vous avez encore une petite route à parcourir, hein, évidemment, n'ayant que 22 ans pour arriver à prendre une distance avec tout ça, sans jamais, bien sûr, manquer de respect à vos parents. Je crois que votre père vous soutient, en tout cas, dans cette démarche. Très bonne journée à vous. À Kinshasa, vous continuez de nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Je vous propose d'écouter maintenant le témoignage de Julie. Elle a 30 ans, elle est la dernière de la fratrie en France et elle s'est confiée au micro de Raphaël Constant.
C'est une relation à la base dans laquelle il y a beaucoup d'amour et de bienveillance, mais sous couvert de bienveillance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression qui est là sur moi depuis toujours. Et en fait, c'est une relation qui devient de plus en plus compliquée au fil du temps. Plus les années passent, plus je suis censée avoir une vie à moi et dans laquelle ils sont pas censés donner leur point de vue ou juger. Et c'est pas le cas. Et c'est même de pire en pire, je dirais. Alors d'abord, il y a la pression par rapport à mes relations amoureuses. Je suis juive, donc pendant très très longtemps, il me parlait que du fait de trouver un juif et qu'il fallait que je me marie avec un juif parce que voilà, c'est aussi une manière de perpétuer les traditions, etc. Comme j'ai dépassé le 28 ans, ils se disent « bon bah maintenant, tant pis, ça sera pas un juif, mais il faut quelqu'un, quoi, vite !» Mais ça reste compliqué. Récemment, j'ai voulu leur parler d'un homme que je voyais, avec lequel j'avais une relation, et ça s'est très mal passé, bah, parce qu'il n'était pas de la bonne couleur, tout simplement. Et donc voilà, ils ont toujours quelque chose à dire sur mes relations amoureuses, mais c'est pas que ça. C'est aussi de l'intrusion dans ma vie personnelle. Par exemple, Ils ont les clés de chez moi et ils peuvent venir sans me le dire. Ça m'est déjà arrivé un jour de rentrer, de voir ma mère en train de faire des machines. Enfin, vraiment, c'était improbable. Et c'est surtout quand je lui dis que c'est problématique, parce qu'elle le prend... Alors déjà, elle me dit, bah oui, mais on est juifs, c'est normal, on fait comme ça. Faut pas que tu te compares à tes copines, en gros. Ça la rend triste, en fait, quand je lui dis. Et du coup, ça me rend triste aussi, mais donc je me sens piégée, en fait, parce que tout est sous couvert de bienveillance, comme je disais, et c'est de la culpabilisation.
Donc ça veut dire que vos parents, et notamment votre mère, s'octroient un droit de regard sur votre vie, vos choix ?
Exactement, et surtout, ils considèrent... Alors je pense que c'est aussi le fait que je sois pas mariée et que j'ai pas d'enfants, parce qu'ils font pas ça avec mes grands frères. Bon, déjà, c'est des hommes, donc c'est différent. Mais ils se disent que tant que je suis pas mariée, je suis encore leur propriété, en fait. Ma mère peut m'envoyer à 22h un message en me disant « t'es sortie » ou alors à 23h me demander si je suis rentrée. Et alors ça apparaît assez anodin comme ça, et puis on peut le prendre un peu comme quelque chose de gentil, etc., de bienveillant, encore une fois. Mais en fait, c'est un message de trop, c'est-à-dire qu'il a des conséquences sur moi qui sont vraiment très fortes. Je réponds quand même parce que je veux pas qu'elle s'inquiète, mais... On se sent piégé de devoir toujours écrire, rassurer l'autre. Je me sens complètement fliquée. Et le problème, c'est que je me suis enfermée dans des mensonges depuis très longtemps, justement pour pas être fliquée, un peu pour tout et n'importe quoi. Et j'aimerais bien en sortir, mais en fait, le problème, c'est que du coup, ils ont une perception de moi qui n'est pas la vraie moi, puisque je dis pas toujours la vérité, je parle pas beaucoup de mon travail, alors que mon travail, c'est quand même une grosse partie de ma vie, et donc c'est dommage.
Et ça, comment vous le vivez, vous ?
D'abord, ça dépend des jours et de mon humeur, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va m'énerver, donc du coup, ça va finir en dispute. Et il y a des jours où je me dis, bon bah voilà, ils ont plus de 60 ans, ils sont comme ça, ils vont jamais changer, donc ça sert à rien que j'essaye de les changer, j'accepte et puis je passe à autre chose, tant pis. Par rapport à mes relations amoureuses, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça me bloque beaucoup. Ça va si loin que parfois je me demande est-ce que je vais pas devoir trouver quelqu'un qui leur plaît et qui me plaît un minimum. Et puis je fais un bout de chemin avec lui et puis j'ai des enfants pour leur faire plaisir et puis après moi je vais voir ailleurs. Enfin je sais pas. Parfois j'ai des pensées comme ça, mais j'espère que ça finira pas comme ça.
Est-ce que profondément vous avez envie de couper le cordon avec vos parents ? Ou est-ce que c'est encore trop difficile ?
Ces derniers mois j'ai compris qu'il fallait que je coupe le cordon et du coup. J'essaye de le faire, mais c'est compliqué parce que j'ai quand même aussi, moi, besoin d'eux. C'est pas que eux qui me demandent des comptes, moi aussi, du coup, je me sens obligée de leur rendre des comptes, et même aujourd'hui, à 30 ans, et j'essaye de... À chaque fois que ça m'arrive, que je me dis, ah bah du coup, il faut que je dise à ma mère que le mec d'EDF va venir. Et en fait, deux minutes après, je me dis, bah non, en fait, pourquoi faut que je dise à ma mère que le mec d'EDF va venir ? Enfin, voilà, c'est une relation d'interdépendance qui se termine pas comme ça. Et en fait, j'aurais l'impression de les aimer moins si je me disais, j'ai coupé le cordon ou je coupe le cordon. Et du coup, parce que eux, en fait, ils réagissent comme ça. C'est-à-dire que si je leur parle moins, si je leur donne moins de nouvelles, si je leur dis pas ce qui se passe dans ma vie, ça veut dire pour eux que je les aime moins et qu'on se fait la tête ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un combat de tous les jours, on va dire.
Bourgeois nous a aussi posté un message de N'Djamena au Tchad et il nous dit « Pour moi, c'est l'influence des parents sur le choix du conjoint de leurs enfants qui montre que nous sommes toujours des enfants aux yeux de nos parents. » Est-ce que là, ça vous semble le point central dans le témoignage qu'on vient d'entendre, Emmanuel Ballet de Coq-Romont ? Ou c'est tout un ensemble qui conduit au blocage de sa propre vie d'adulte ?
Il y a vraiment une difficulté centrale qui est celle des représentations. On voit dans ces témoignages comment finalement les parents sont enfermés dans une représentation de ce qu'est un parent, bienveillant, aimant, toujours présent pour son enfant, mais comment cela aussi interdit l'individuation, l'émancipation de l'enfant. Et c'est là que la relation devient à l'âge adulte cadenassée. C'est-à-dire que cette jeune fille qui est juive explique très bien comment elle en vient à rentrer dans un mode de pensée, de sentiment et de comportement qui limite l'authenticité des relations et des rapports avec ses parents. Et là, on est au cœur d'un problème fondamental. C'est que l'amour au sein de la famille devrait s'appuyer sur le respect des différences. Or là, on est loin, très loin de cela. Alors, dans ce cas-là, moi, quand même, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on entre dans un rapport qui devient toxique. Et là, cette jeune fille, je l'inviterais à vraiment faire une psychothérapie parce qu'elle ne pourrait pas se sortir seule de tout ce canevas, en fait, qui cadenasse le lien et la relation. Et puis, fondamentalement, tout ça s'appuie sur l'idée que les parents sont aimants. Il y a une forme d'oblativité parentale, c'est-à-dire que tous les comportements parentaux ou les idées parentales, etc., sont associés à de l'amour. Mais ce n'est pas parce qu'un système familial ou des parents parlent d'amour qu'il s'agit d'amour. Et mon expérience m'indique malheureusement que plus on parle d'amour et de bienveillance dans une famille, plus le système est dysfonctionnel.
Et là, elle dit à la fin de son intervention, elle aimerait bien couper le cordon, mais elle a peur que ça soit mal interprété, qu'on lui dise qu'elle aime moins ses parents, alors que ce n'est pas forcément ça. Quand on coupe le cordon, on veut mener sa vie d'adulte, ne pas être dépendant de ses parents. Parents, c'est pas qu'on les aime moins, c'est juste que voilà, on a besoin en tant qu'adulte d'avoir un espace de décision pour soi, de pouvoir faire ses choix sans que ses parents n'interviennent dans ces choix-là.
Tout à fait. Malheureusement, elle est inscrite dans une loyauté auquel ses propres parents ont répondu, qui consiste à dire que sa vie ne lui appartient pas.
La loyauté, c'est pas l'amour.
Et la loyauté n'a rien à voir avec l'amour. La loyauté invite à des réponses automatiques qui vont empêcher l'individu d'être lui-même. C'est comment, finalement, on est éduqué à répondre à des loyautés, à des devoirs et à se soumettre, parfois dans la peur de perdre l'amour, par exemple, plutôt que d'être accompagné à devenir qui l'on est, dans sa spécificité, son individualité.
Mais on ne peut pas être loyal qu'avec ses parents.
Et on ne doit pas être loyal à ses parents parce que le lien de parenté à soi-même est deux fois plus puissant. Donc, si on se trahit soi-même, on va vers la catastrophe.
Alors, vous nous appelez, bien sûr, via notre compte WhatsApp, les voisins et les voisines. Comment devenir un adulte et pas seulement rester un éternel enfant vis-à-vis de ses parents? 33 7 64 45 51 41. Avec le confinement, beaucoup d'adultes se sont retrouvés à passer des semaines chez leurs parents dans une situation parfois ambivalente, mais souvent aussi, certains ont dit que c'était agréable, que c'était positif. Il y a aussi maintenant en perspective l'augmentation du chômage. Il y a beaucoup d'adultes qui sont obligés de vivre sur le même toit que leurs parents. Alors, comment on fait finalement?
Les tanguis.
Oui, les tanguis.
Comme on dit en France.
Oui, c'est ça, le fameux film où là, on a l'image finalement d'un fils qui ne veut pas quitter la maison de ses parents parce qu'il est tellement heureux avec ses parents et c'est plutôt les parents qui aimeraient bien le voir partir.
Tout à fait.
Mais dans la vraie vie, c'est ça se passe pas comme ça.
Non, en fait, Tanguy, c'est un mythe. Ça n'existe pas, les Tanguy.
Dans la vraie vie, on n'a pas des Tanguy.
Non, ça n'existe pas. Pourtant, extérieurement, certaines personnes se comportent comme des tanguis. Mais le tanguis qui, en fait, veut profiter de ses parents jusqu'au bout, ça n'existe pas. La vérité, c'est que les tanguis, les personnes qui se retrouvent dans cette situation, souffrent terriblement. Elles se sentent prisonnières. Et c'est vrai que parfois, les parents eux-mêmes souffrent de cette situation. Ce sont des systèmes où ni les parents, ni les ex-enfants ne réussissent, en fait, à s'émanciper. Moi, j'ai une famille que j'accompagne actuellement avec un père et ses enfants adultes. Et en effet, tout le monde souffre de cette situation. Et on explore peu à peu comment il y a réellement des loyautés qui interdisent aux parents de se dire « bon, bah maintenant c'est fini, j'ai fini mon rôle, vivez votre vie » et aux enfants de pouvoir s'émanciper.
Vous parlez de relation d'enfant intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire finalement?
Alors, l'enfant intérieur, c'est une notion fondamentale en psychologie, mais je crois que le jour où on aura dépassé le tabou de cette parentalité qui est hiérarchique et dissymétrique, ce sera le jour où on aura, en tant qu'adulte, la capacité de pouvoir exprimer à ses parents ce que l'on a bien vécu et ce que l'on n'a pas bien vécu dans la relation. Qu'est-ce que l'on a
Mais ça, c'est souhaitable, ça, ce déballage en famille?
Alors, c'est plus que souhaitable. C'est le début de la guérison. La difficulté, c'est que nous sommes dans des sociétés où si un ex-enfant exprime ce qu'il ressent, eh bien, on va le faire taire parce qu'on va dire que c'est un manque de respect. Et puis aussi parce qu'on va penser qu'il va s'enfermer dans les reproches.
Arrête de régler tes comptes, tu ne vas pas réussir à me culpabiliser.
Cela dépend aussi de la relation de communication qu'on a avec ses parents.
Tout à fait, c'est comme si on allait
être communication.
Est-ce qu'on ose dire certaines choses à ses parents?
Évidemment, mais on ne peut pas vivre avec un secret qui est le secret de la façon dont on a vécu son enfance. Et on ne peut pas chasser sa vie enfantine d'un revers de la main en disant « mes parents ont été aimants, j'ai eu une enfance heureuse ». Parce qu'il n'existe pas d'enfance heureuse. Toutes les enfances...
Bon, vous nous rassurez.
Ben oui, ben oui, toutes les enfances ont leur ombre et leur lumière. Et pour recréer une alliance avec son parent, l'ex-enfant doit pouvoir être en vérité vis-à-vis de ses parents en disant « quand il s'est passé ceci, cela, moi ça m'a fait mal ». Il ne s'agit pas de demander des comptes et surtout de ne pas tomber dans le mythe de la réparation.
Alors, on accueille une auditrice qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp. Samira est à Parakou, au Bénin. Bonjour Samira.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de 7 milliards de voisins.
Soyez la bienvenue Samira, vous avez 38 ans, vous êtes mariée,
oui.
Donc vous êtes
oui.
bien une femme adulte. Et alors c'est quoi le problème? Toujours une enfant pour vos parents?
Ah oui, j'ai une maman très très pointilleuse qui n'aime pas du tout les erreurs, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que... Malgré mon âge, malgré que je sois indépendante, malgré même que j'ai une fille de 17 ans qui a eu le bac cette année, ma maman est toujours derrière moi à contrôler mes faits et gestes. Parfois même, je suis au boulot, elle oublie que je suis au boulot parce que je suis journaliste, je suis au boulot, j'ai peut-être l'édition du 22e à faire. Maman oublie, elle m'appelle, me dit « Si tu ne ris pas tout de suite, je vais fermer mon portail. » Et je lui dis carrément, mais maman, je suis au boulot, au cap de la radio, tu vas comprendre que je suis à l'antenne et que je suis en plein journal. Parfois, c'est tellement persistant que je me demande, mais est-ce qu'elle ne se rend pas compte que je suis aussi devenue adulte et que j'ai des enfants? Parfois, devant les enfants, elle me crie dessus et je ne sais même plus quoi dire, quoi. Je me dis, mais... qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis aussi irresponsable que ça ou bien c'est parce que je suis son enfant? Je ne comprends pas. Parfois, j'ai envie
en fait, elle vous nie dans votre existence de femme adulte avec un métier, avec vos enfants, etc.
Voilà, voilà. C'est un peu comme cela, mais je comprends parce que je vois que c'est une manière de me protéger, c'est une manière de dire que même si tu as 100 ans, tu es toujours mon enfant, mais parfois je suis dépassée, je me dis que mais jusqu'où ça ira, et voilà, moi aussi j'ai des enfants qui sont en train de grandir.
Si écoutez, tout le temps, Emmanuel Ballet... Et Emmanuel Ballet de Cocromont, il vous écoute attentivement, hein,
oui.
Samira.
Je sais, quand je réfléchis un peu, je sais que c'est de l'amour, mais est-ce que c'est la meilleure manière de l'exprimer? Je ne comprends du tout pas, parce que parfois, elle oublie même, ça peut arriver devant un collègue ou devant une personne qui me respecte bien, de voir que ma maman me traite comme cela, et du coup, moi, je n'ai plus de crédibilité, quoi.
Mais dit, oui, oui.
On va peut-être me dire, mais chez toi...
Elle vous met la honte,
alors,
hein, d'une certaine façon.
Tu fais la grande, voilà,
Samira, je pense qu'il faut, il faut agir, hein. Il faut agir, il y a des... poser des actes et des paroles, non, Emmanuel Ballet de Cocromont?
Oui, tout à fait. Bonjour, Samira. Alors,
bonjour.
Samira, déjà...
Ma maman est à côté, je lui ai dit de capter de l'autre côté, et puis, je ne sais pas,
ah bon,
vouloir vous parler. Oui, elle est dans sa chambre.
D'accord.
Je lui ai dit que c'est peu que je la rejoigne dans sa chambre pour qu'elle puisse dire quelque chose.
Bon, on laisse la parole à Emmanuel Ballet. Allez-y, Emmanuel Ballet.
Oui, Samira. La première chose, c'est que votre mère, en effet, confond la filiation avec la fonction parentale. La filiation, vous serez toujours sa fille, puisque vous êtes née et qu'elle était votre parent, c'est votre génitrice. Donc, mère et fille, c'est un statut de filiation qui restera jusqu'à la fin de votre vie. Mais la fonction parentale, elle n'a rien à voir avec la filiation. Ça n'est pas parce que votre mère vous a donné la vie qu'elle est votre mère pour toute la vie. Sa fonction, c'est celle de vous avoir accompagnée en tant qu'enfant. Et on voit que votre mère est perdue, c'est-à-dire qu'elle est bloquée au stade où elle pense qu'elle doit être mère à vie. Alors, le positionnement, parce qu'il faut là poser des actes, en effet, parce que j'insiste, Samira, il faut que vous preniez conscience que, bien sûr, ce comportement n'a rien d'aimant. Parce qu'en fait, ce que vous dites sans le dire, c'est qu'à chaque comportement de votre mère, c'est votre valeur personnelle qui est attaquée. Donc, il ne s'agit pas d'amour.
Valeurs, elle me parle de valeurs que nous avons retrouvées, ces gens, chez nous, les histoires de honte, tu es rentré tard,
mais parce
tu es
elle...
marié, ton mari n'est pas là, je me dois de te protéger.
Mais ça, c'est pas ça, c'est votre vie.
Ci, ma fille a fait ça.
Vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme?
Ben, je me le dis parce que je ne pense pas qu'elle puisse contrôler son fils.
Mais ça, Samira, c'est votre vie et elle aussi a une vie, une existence. Comment on fait concrètement là pour qu'il y ait une séparation entre les deux? Parce que vous dites, ce n'est pas une attitude aimante, ça ne veut pas dire non plus que la maman de Samira, que la mère de Samira ne l'aime pas. Mais en tout cas, cette façon,
elle m'aime beaucoup.
Voilà, cette façon d'être n'est pas une attitude aimante. C'est ce que vous avez bien dit.
Tout à fait, exactement. C'est... Ça ne signifie évidemment pas qu'il n'y a pas d'amour, mais ce comportement n'a rien à voir avec l'amour parce qu'il n'est pas aimant, il n'est pas respectueux à l'égard de Samira, il la dévalorise, il l'infantilise. Je crois qu'il y a un acte, Samira, que vous pourriez poser, c'est de ne rien laisser passer. À chaque fois que votre mère vous parle comme à une enfant, vous allez réactualiser la situation, c'est-à-dire dire à votre mère, sans colère, tout simplement, là, tu t'adresses à une petite fille de 5 ans, et là, mon besoin ou ce que je suis en train de faire n'a rien à voir avec une petite fille de 5 ans. Je n'ai pas peur, je ne vais pas rester à la rue derrière la barrière fermée, 5 ans perdu. Non, je suis adulte, je peux me débrouiller. Donc chaque fois de ramener votre mère dans le présent, elle vit dans le passé et finalement, il y a là des réponses automatiques qui sont liées à celles qu'elle donnait à une petite fille. Chaque fois, vous lui dites, là, tu t'adresses à une petite fille, je suis une personne adulte.
Merci à vous, Samira, de nous avoir appelé. Bien sûr, vous êtes nombreux à nous téléphoner. Je redonne le WhatsApp 337 64 45 51 41. Sylvestre Anjamena aussi nous dit « Nos parents nous chouchoutent comme des bébés et parfois ça joue énormément sur nos caractères, sur notre comportement. Hein. » Donc ça agit comme un phénomène de blocage. On attend vos appels. Dans quelques instants aussi, on vous donne la parole, Penaï Traoré. Ça sera juste après. Allez, papa, Big Flo.
Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses blagues quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs. Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padres. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Y ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue. Aprendí que en la vida no vale más que papá, 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 papá.
Vous écoutez RFI, on est en direct, 7 milliards de voisins. Comment ne pas rester un éternel enfant vis-à-vis de ses parents? Vous êtes nombreux à nous téléphoner au 337 64 45 51 41. On est en compagnie du psychothérapeute Emmanuel Ballet de Coq-Romont et également de ma collègue journaliste Penaï Traoré. Penaï Traoré, pour tous les voisins et les voisines qui se plaignent depuis l'émission hein, d'une relation étouffante en tant qu'adulte avec leurs parents qui les considèrent toujours comme des enfants, vous vous êtes fait un peu l'avocate des parents.
Eh oui, Emmanuel, tu penses que tes parents t'infantilisent quand ils te traînent avec eux pour visiter toutes tes tanties et tous les tontons avec qui tu n'as peut-être pas d'affinité. Et tu penses que tes parents t'infantilisent quand une fois étudiant et que tu vis dans une résidence universitaire, ta mère te fait parvenir à chaque fin de mois un colis alimentaire, c'est-à-dire farine, sucre, lait, gari. Gari, le gari, tous les étudiants, je pense, dans les pays africains, savent ce que
c'est de la générosité.
Semoule. Voilà.
C'est généreux,
c'est de la semoule de manioc, mais en même temps, on se sent un peu enfant quand sa mère est obligée chaque fin de mois de nous envoyer un colis alimentaire à la résidence universitaire. Mais bien que ça profite à tous les autres étudiants hein, aussi qui sont dans le besoin. Et tu penses que tes parents t'infantilisent quand ta mère persiste à choisir et à t'acheter tes vêtements et même tes sous-vêtements alors que tu es majeur, tu as grandi, tu es devenu adulte et pour une raison ou une autre, tu quittes tes parents pour tenter l'aventure. Du jour au lendemain, tu n'entends plus « Abdoulaye, il est temps d'aller prendre ta douche. Christine, je veux que tu sois
rentrer avant 22h ou encore avec qui tu traînais devant la porte là. Mmh. Désormais, tu repousses les limites de ton sommeil, tu te couches à 4h du matin et tu te lèves à 11h. Tu sors de ton lit sans que papa ou maman viennent te réveiller.
La vraie vie.
Ça, c'est le luxe.
Ouais, la vraie
voilà.
vie.
Tu ramènes des mecs ou des filles sans craindre d'être surpris par les parents. Tu décides tout seul ou toute seule de ce que tu mangeras pendant les repas. Peu à peu, tu commences à ressentir leur absence et tu veux tout faire comme eux, avoir les mêmes habitudes. Tu te surprends un beau matin à devenir comme tes parents. Et là, eux que tu trouvais collants, trop présents dans ta vie, tu estimais qu'ils t'infantilisaient beaucoup trop. Aujourd'hui, ils te manquent. Tu te rends compte au fil du temps que finalement, être infantilisé te permet de te sentir aimé, que tu peux compter sur eux parce qu'ils sont près de toi. Et ça, Emmanuel, il fallait partir, être loin pour s'en rendre compte. Dès lors, tu savoures chaque retrouvaille avec tes parents. Dans l'exil aussi, nous restons d'une certaine façon des éternels enfants pour nos parents, Emmanuel.
Ah oui, bien vu, hein, Penaï Traoré, Emmanuel Ballet de Coq-Romont. Qu'est-ce qu'on fait quand l'éloignement crée cette nostalgie du lien parental perdu quand même.
Ce que je crois, ce que nous dit la Penaï, c'est aussi très important, c'est que nous sommes des êtres de racines. On ne peut pas vivre sans nos racines. Donc, s'émanciper, se différencier de ses parents, ça ne veut pas dire couper le lien, sauf s'il est vraiment incroyablement toxique. Donc, nous avons besoin de racines, mais en même temps, nous devons inventer de nouvelles racines. Quelque part, une nouvelle manière de puiser des rapports qui soient plus équilibrés, qui soient plus justes. Et bien sûr que, quelque part, le manque doit davantage être installé ou s'appuyer sur la notion « j'ai besoin d'avoir aussi une relation pacifiée, intègre et nourrissante avec mes parents ». Sans retomber dans les automatismes, c'est-à-dire par manque, retomber et accepter des automatismes qui, par contre, ne vont pas pacifier la relation, mais vont la rendre souvent trop compliquée. Et après, on va faire le yo-yo. J'étais pressé de les retrouver. Une fois que je les ai retrouvés, j'étais pressé de repartir.
C'est quand même souvent le cas. Allez-vous nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Fatima est en ligne à l'État Dakar. Bonjour Fatima.
Alors, bonjour.
Alors, vous avez la quarantaine, vous êtes mariée, vous êtes divorcée, donc voilà, une vraie vie d'adulte. Et pourtant, voilà, vous êtes toujours une enfant pour vos parents, pour votre maman.
Voilà, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs et les invités. Bon, ma maman me considère comme une éternelle enfant parce qu'elle décide presque tout pour moi. Et j'ai peur même pour mon avenir. Je me suis dit que quand est-ce que je vais me marier, parce que elle, à chaque fois que je lui présente quelqu'un, et si la personne elle voit des inconvénients, je ne sais pas comment elle le voit, elle me demande de quitter cette personne. Et je me suis dit que moi, quand est-ce que je vais me marier, parce que c'est elle qui décide.
Mais vous avez été mariée, Fatima, et vous avez divorcé, non?
Oui.
Oui, donc ça, c'est pas elle qui l'a décidé.
Non, c'est parce qu'à chaque fois, par exemple, si tu lui présentes un copain, s'il est d'accord, le mariage va avoir lieu, mais si elle n'est pas d'accord, là, tu vois, je suis obligée de casser cette relation, et ça m'inquiète un peu.
Mais vous avez bien été mariée, Fatima, je me trompe pas, j'ai bien les bons renseignements, et vous avez divorcé.
Oui.
D'accord, donc ça, c'est bien vous qui avez décidé de cela.
Même, par exemple, le divorce, j'ai décidé avec elle aussi.
Ah,
voilà.
Vous avez décidé avec elle, oui. D'accord.
Voilà.
Emmanuel Ballet de Coq-Romont, qu'est-ce qu'on peut dire à Fatima?
Bonjour Fatima. Très simplement, bonjour. C'est évident qu'une relation de couple se vit à deux. Si votre mère s'installe symboliquement au milieu du lit, ça va être un peu compliqué. Donc en réalité, chaque fois que vous avez recours à votre mère pour lui demander des conseils ou qu'elle s'immisce dans votre vie pour vous donner des conseils, elle vous vit comme un prolongement d'elle-même. Et la difficulté dans l'idée de le prolongement de soi-même, c'est qu'elle n'est pas en contact avec vos véritables besoins. Donc c'est très difficile parce que ça va nécessiter de votre part, de lui expliquer que vos besoins ne sont pas ses besoins. Et pour que vous puissiez quand même continuer à garder une alliance avec votre mère tout en vous positionnant, je vous indiquerai, Fatima, une chose, c'est que votre mère croit bien faire. C'est-à-dire qu'elle croit répondre à un devoir qui est celui de l'amour, mais elle pense aussi pouvoir réparer une partie de sa propre existence ou réparer aussi ce qui aurait pu vous manquer lorsque vous étiez enfant. C'est très important de faire sentir à votre parent qu'elle ne peut pas réparer le passé, qu'elle ne peut pas se réparer à travers vous et qu'elle ne peut pas vous épargner une existence violence qui est faite de haut mais aussi de bas. Elle ne peut pas vous éviter de souffrir, elle ne peut pas vous éviter d'avoir des échecs amoureux, etc. Et elle ne peut pas vous protéger en fait.
Merci Emmanuel Ballet de Coq-Romont pour cette mise au point. Fatima, j'espère que ça pourra vous aider. On vous souhaite une bonne journée à Dakar. Vous êtes nombreux à souhaiter intervenir. On accueille Bruce qui nous appelle de Brazzaville, 45 ans. Bonjour Bruce.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour les voisins.
Alors vous, je crois que ça a été compliqué avec vos parents, mais aujourd'hui, vous avez compris ce qui s'était passé. Vous servez un peu de médiateur pour vos petits frères et sœurs, pour pas qu'ils vivent la même chose que ce que vous avez vécu avec vos parents.
Oui, naturellement, je voudrais tout juste apporter peut-être un témoignage un peu vivant. Bon, quand il s'est agi de faire le choix de la femme de ma vie, et j'ai suivi l'imposition de mes parents, qui m'imposait une ligne de conduite, qui était question de choisir une femme de telle ethnie. Et j'étais obligé de faire asseoir mes parents. J'ai fait asseoir mes parents, je les ai fait comprendre que j'étais adulte. En ce temps-là, j'avais 32 ans, quand j'avais décidé de prendre une femme. Donc, il était question de faire asseoir les parents, de les faire comprendre que je suis adulte. Oui, oui, je ne refuse pas votre ligne de conduite, mais je souhaiterais que vous soyez plus les conseillers que les décideurs.
Et comment ont-ils réagi quand vous avez essayé de leur dire les choses comme ça?
Oui, les parents, ils avaient du mal à avaler, mais à un certain moment, ils étaient obligés de me comprendre. Et après, ils ont adhéré à mes propositions. Et aujourd'hui, je vous rassure que j'assure le relais entre mes parents, mes petites sœurs et mes petits frères.
Eh bien écoutez, c'est une belle expérience. Merci Bruce, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette discussion. Que mes parents soient éventuellement mes conseillers, mais pas mes décideurs. Un témoignage qui arrive là sur l'écran d'une étudiante Malaïka qui est à Kampala en Ouganda, elle a 22 ans. Elle me dit « Mes parents choisissent tout pour moi depuis toujours. Ils ont choisi ma fac, mon cursus de comptabilité alors que je voulais être médecin. Je ne peux pas discuter avec eux. » Alors elle est beaucoup plus jeune, évidemment. C'est plus facile hein, quand on a 32 ans, quand on est installé dans la vie, mais faire asseoir ses parents, comme le disait Bruce, comment est-ce qu'on fait pour faire de ses propres parents un bon parent adulte, Emmanuel?
Je pense que ce que Bruce explique, c'est la possibilité dans la relation ex-enfant, ex-parent, d'une coopération, en fait, d'une alliance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le parent qui sait et l'enfant qui ne sait pas. Il y a des discussions entre des adultes et parfois la vision de l'ex-enfant peut l'emporter et ainsi de suite. Mais on est là dans des rapports qui sont plus, je dirais, discutés. Il n'y a pas de pression, d'obéissance, de loyauté. C'est vraiment un échange où on est respecté dans ses différences, dans ses besoins, dans sa propre représentation, ses perceptions. Et là, il y a vraiment la possibilité, du coup, d'avoir une relation plus riche avec ses parents.
Bruce, lui, il a pu reprendre le dessus pour faire comprendre les choses à ses parents. Mais quand on n'a pas cette autorité, on n'arrive pas à parler à ses parents. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Plus difficile pour les femmes aussi.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on peut rééduquer le lien à ses parents. Mais ça passe souvent par une forme de distance. Il faut accepter que cette odyssée qui consiste à quitter ses parents, puis à revenir possiblement pour une nouvelle alliance, ça nécessite cette phase de distanciation. Et cette distance, elle doit être émotionnelle, psychologique et physique. Parfois, les parents se rééduquent eux-mêmes en se disant « j'ai pas envie de perdre mon fils et ma fille parce que là, maintenant, il m'appelle plus, il veut plus me voir, etc. » Ce qui oblige le parent à se dire « bon, il va falloir que je change mes perceptions si je veux avoir une nouvelle relation. » C'est ce que j'appelle rééduquer le lien. Et en effet, ben, la distance, parfois, c'est une information que le parent reçoit comme une information qui nécessite de modifier son comportement.
Pour rééduquer ses parents, il faut vous lire, hein, Emmanuel Ballet de Coq-Romont. Vos parents ne sont plus vos parents. Les clés pour réajuster la relation avec ses parents à l'âge adulte. Rééduquer ses parents en toute bienveillance, hein, bien évidemment. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Penaï Traoré.
Merci.
Le livre est publié aux éditions Erol aussi, j'ai oublié de le préciser. Et dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, pour les parents qui ont des enfants très jeunes, comment apprendre de ses erreurs? Ça sera juste après Mélissa Lavaux.
Tout est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et nous retrouvons le psychologue Ibrahima Giroud à Dakar pour des conseils aux parents. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel et bonjour aux voisins, aux voisines.
Ibrahima Giroud, vous êtes psychologue et aussi jardinier, chroniqueur, amateur. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'importance de ne pas se laisser handicaper par ses erreurs, mais plutôt d'apprendre de ses erreurs quand on est parent pour s'améliorer. Et comme toujours, c'est ce que les plantes vous ont soufflé, parce que vous-même, vous faites beaucoup d'erreurs en jardinage. Hein. C'est ce que vous nous racontez au fil des semaines.
Exactement, Emmanuel. Comme vous le savez, la nature est très, très généreuse. Et quand je regarde les plantes dans le jardin de Hakima, je vois que la vie, Emmanuel, est présente partout, comme pour ôter toute légitimité au désespoir et au pessimisme. Je prends l'exemple de mes plantes de salade. Au début, j'avais un très mauvais amendement du sol et malgré tout, les salades poussaient certes difficilement et semblaient s'accrocher quand même à la vie. Mon ami Laurel m'a demandé d'enlever les salades, de réamender le sol et de les replanter. Je lui ai demandé à nouveau si les salades ne risquaient pas de mourir si on les retirait du sol et si on lavait les racines ainsi qu'il me le demandait.
Oui.
Aucun risque, me répond-il. J'ai donc suivi ses conseils, j'ai amendé le sol et je replantais les salades comme il me l'a conseillé.
Et qu'est-ce qu'on en tire comme leçon pour les parents qui nous écoutent, pour les familles?
Tout d'abord, l'importance d'avoir quelqu'un de confiance que l'on écoute et qui peut nous donner des conseils pratiques et simples. Mmh. J'insiste sur le côté pratique et simple. Ensuite, la vie, Emmanuel, elle est présente partout. Que dire alors du parent, Emmanuel, qui se comporte comme si ses enfants ne peuvent pas vivre sans lui, alors qu'une plante continue à vivre, même arrachée à la terre? Une des leçons que j'ai apprises de ça, c'est que la vie ne meurt pas. Elle n'est que bien fait, elle n'est qu'apprentissage. Donc, point de place au pessimisme. Toutes les erreurs, les nôtres, comme celles de l'enfant, à partir du moment où elles partent d'une exploration du monde, de la volonté de bien faire, devraient être regardées comme ce qu'elles sont.
Oui, alors tout cela est bien sage hein, quand on vous écoute, Ibrahima Giroud, mais comment faire? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux parents qui ont du mal à rebondir après leur erreur dans l'échange avec les enfants?
En tant que parent, Emmanuel, je dois d'abord savoir que mon enfant ne s'attend pas à ce que je m'aplatisse et que je me laisse ronger par le remords. Ce serait pour l'enfant beaucoup plus destructeur de voir son parent dans cette situation que l'erreur pour laquelle on se met dans cet état. Je peux émanciper ma relation avec mon enfant de ce type de maladie en limitant les interdits et les enseignements. Ce n'est pas en enseignant beaucoup que l'on limite les erreurs, mais en enseignant peu pour paradoxalement laisser de la place à l'erreur et en assurant la consistance entre mes enseignements et mes pratiques.
Oui, la qualité donc, avant la quantité. Une autre solution exact. Avant qu'on se quitte peut-être, Ibrahima?
La permanence de la vie, comme nous l'avons vu avec les plantes, sous des milliards de formes. Je voudrais dire aux parents qui nous écoutent que le monde est répondant et que le pessimisme vient d'un manque d'humilité ou de l'ignorance. Le pessimisme, Emmanuel, vous entraîne vers une perte de temps, une perte de vous-même, alors que le monde, votre relation avec vos enfants, ne demande qu'à être façonné, transformé, épicé, pimenté, réchauffé par vous. En réalité, la vie vous répond, comme vous l'avez appelé. Et quand elle vous répond, en réalité, vous entendez l'écho de votre propre voix.
Eh bien, vous avez remonté le moral de tous les parents qui se désespèrent avec leurs enfants, Ibrahima Giroud. Et pour terminer, dans quelques secondes, la question de la semaine à méditer.
Emmanuel, voici ma question pour les voisins et les voisines cette semaine. Pourquoi perdre du temps à chercher une vérité qui n'apporte pas la paix, alors que la paix, elle, apporte la vérité?
Mmh. Eh bien, c'est complexe, Ibrahima Girou. Je vais la redire, votre question de la semaine à méditer. Pourquoi perdre du temps à chercher une vérité qui n'apporte pas la paix, alors que la paix, elle, apporte la vérité? Voilà de quoi réfléchir. Merci à vous, Ibrahima Girou, psychologue à Dakar. On vous retrouve très bientôt chez 7 milliards de voisins. Bonne journée à vous.
Merci, au revoir Emmanuel.
Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur l'alimentation dans les villes. Comment les villes réinventent nos repas? Nous en discuterons avec nos invités. Et puis surtout, n'oubliez pas de télécharger nos 55 histoires disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. Ce sont les fêtes, les vacances scolaires, vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs ont du temps. C'est le moment de travailler son langage, l'imagination. 7 milliards de voisins, des contes à écouter.
Milliards de voisins, c'est fini.